Attention à la marge, votre chronique féministe sur Divergence FM.
Il faut une sacrée dose de volonté à une femme noire pour atteindre le sommet de la montagne qu'elle vise.
Attention à la marge, où on parle de féminisme, d'antiracisme, d'anticapitalisme.
Nous allons effectivement améliorer les choses, mais nous n'avons pas besoin de votre secours.
Attention à la marge sur Divergence FM. Bonjour à toi qui m'écoutes. Bienvenue dans Attention à la marge. Aujourd'hui, notre destination, c'est la France de la fin du XVIIIe siècle. Tu ne le sais peut-être pas, mais la France est le seul pays au monde à avoir aboli l'esclavage à deux reprises. En 1794, dans la foulée des réformes de la Révolution française, l'esclavage est aboli une première fois. Sauf que, grâce à notre cher Napoléon, il est rétabli en 1802 dans les colonies, dans les Caraïbes en particulier, où l'on cultive la canne à sucre. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Pour l'abolition définitive, il faudra attendre 1848, 50 ans plus tard. Mais, me diras-tu, quel rapport avec le féminisme ? Le fait est que, lorsqu'on pense à l'abolition de l'esclavage, on pense plutôt à des hommes. Voltaire et son Nègre de Suriname, par exemple. Les écrits de Montesquieu ou le combat politique de Victor Schœlcher. En réalité, de nombreuses femmes intellectuelles ont participé au mouvement anti-esclavagiste, en France et dans le monde. C'est leur effacement des manuels scolaires et de l'histoire qu'il nous faut d'abord réparer si l'on veut faire le lien entre féminisme et antiracisme. Avant même la Révolution, des femmes françaises qui appartiennent à l'aristocratie ou à la bourgeoisie écrivent sur le racisme et les injustices de la traite négrière, s'engagent contre l'esclavage au nom des idéaux des Lumières. Aujourd'hui, je vais te présenter la plus connue d'entre elles, Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, c'est une des grandes précurseuses du féminisme. Elle est surtout connue pour sa célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui proclame que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Ce que l'on sait moins, c'est qu'elle a aussi écrit plusieurs essais sur la condition des Noirs dans les colonies. Elle publie en 1789, année de la prise de la Bastille, L'esclavage des nègres, une pièce de théâtre qui sera jouée au Théâtre de la Nation. Pour la première fois dans l'histoire littéraire française, les deux protagonistes, Zamor et Misra, sont des esclaves noirs. Olympe laisse exprimer, à travers leur voix, une critique sévère de l'esclavage et des violences racistes. Sans surprise, la pièce est censurée 2 ans après ses débuts. À croire que les révolutionnaires n'étaient pas aussi progressistes qu'ils le prétendaient. Quant à Olympe, elle est condamnée à mort et guillotinée en 1793. Elle se défend jusqu'à la toute fin, en évoquant sa lutte pour les droits des femmes et pour l'abolition de l'esclavage. Malheureusement pour elle, les révolutionnaires sont des hommes blancs qui n'en ont pas grand-chose à faire. Que dire du combat de cette femme ? D'abord, qu'il est avant-gardiste dans une France où les propriétaires d'esclaves ont un pouvoir politique et financier très important. Dans une France aussi qui considère que les femmes ne doivent pas écrire et surtout qu'elles ne doivent pas parler politique. Généralement, elles sont cantonnées au genre de l'intime, le roman sentimental, l'autobiographie, les mémoires, les correspondances. Alors une écrivaine qui parle politique, qui critique les choix éthiques de ses compatriotes et qui s'engage contre les injustices, ça mérite d'être retenu. Surtout qu'elle n'était pas seule. Claire de Duras, Sophie Douin, elles sont plusieurs à s'être engagées pour les droits des femmes et pour les droits des Noirs. Leur combat, qui est à l'origine des nôtres, se place donc déjà à l'intersection du féminisme et de l'antiracisme. Cela revient-il à dire que les écrits d'Olympe étaient parfaits et qu'il faut les prendre à la lettre ? Tu connais déjà ma réponse. Il est vrai que pour son époque, elle a fait preuve d'un engagement et d'un courage assez impressionnants. Mais quand on lit ses œuvres aujourd'hui, il y a de quoi grincer des dents. Il faut la voir, dans sa préface, faire la leçon aux esclaves insurgés d'Haïti, leur reprochant une révolution trop violente, les invitant à distinguer les maîtres innocents des persécuteurs, comme s'il existait de gentils esclavagistes. Tout en essayant de critiquer le racisme, elle ne se cache pas du fait qu'elle considère la civilisation européenne comme naturellement supérieure. Pour elle, c'est bien parce que les peuples noirs sont inférieurs intellectuellement, philosophiquement, que seuls les Européens peuvent les émanciper. Tu le sens, ce complexe de supériorité, du sauveur blanc, cette idée d'une mission civilisatrice de la France ? C'est assez typique de la pensée universaliste, qui sera plus tard utilisée durant la colonisation pour priver les peuples africains et créoles de leur langue et de leur culture. D'ailleurs, cette compassion en demi-teinte, pétrie d'ethnocentrisme, a marqué les discours féministes universalistes jusqu'à aujourd'hui. L'infantilisation et la stigmatisation des femmes racisées par des groupes féministes comme les Femen, par exemple, en attestent clairement. Et puis, un des problèmes avec cet héritage féministe, c'est qu'il semble souvent oublier que, de l'autre côté de l'océan Atlantique, des femmes noires ont elles aussi combattu, de manière bien plus concrète, l'esclavagisme et le racisme. Loin d'être des victimes passives, elles furent combattantes et marquèrent anonymement l'histoire. C'est pour cette raison qu'Olympe de Gouges n'est que la première étape de notre voyage dans l'histoire du féminisme. Pour la seconde étape, nous nous envolerons vers les Antilles, à la rencontre d'une autre femme qui lutte. Parce que tant que chaque femme n'aura pas été entendue, le féminisme ne pourra pas atteindre son objectif. À la semaine prochaine !